Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel, avec dans 30 minutes vos réactions sur le Gabon après l'officialisation de la candidature de Brice Clotaire-Oligui Nguema. Nous sommes à 5 semaines de l'élection présidentielle et le tombeur d'Ali Bongo a donc mis fin à plusieurs mois de spéculation. Lundi, il était devant des milliers de personnes et il a dit vouloir continuer à rebâtir le pays. Ma vision est celle d'un Gabon qui renaît de ses cendres, a-t-il affirmé. Alors, que vous inspire cette candidature? Quelles sont ses chances de remporter le scrutin? L'occasion également de lancer le débat sur la stratégie de l'opposition. Comment peut-elle tenter de s'imposer dans ce scrutin qui marquera la fin de la transition? Vos réactions, déjà nombreuses sur nos réseaux sociaux, on les attend désormais au standard 33 9 693 693 70 et je lirai évidemment, comme tous les matins, quelques-unes des réactions postées sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction. On va commencer avec Franck Alexandre qui est à mes côtés, spécialiste des questions de défense. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
Des questions sur l'Ukraine. Pascal, soyez le bienvenu.
Ouais, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Et merci de nous appeler de Douala au Cameroun. On vous écoute.
Donald Trump a suspendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Alors Juan, quel point cette décision peut-elle impacter les Ukrainiens face à la Russie?
Alors,
la deuxième, est-ce que l'aide européenne peut suffire?
La ligne téléphonique n'est pas très bonne. Jusqu'à quel point cette décision peut-elle impacter l'armée ukrainienne? C'était ça votre première question. C'est ça, Pascal?
Oui.
C'est ça. Franck Alexandre, Donald Trump est passé de la parole aux actes. Il a mis clairement sa menace à exécution. Il gèle toute livraison d'armes et de munitions. Avant de répondre à la question de Pascal, rappelez-nous les éléments cruciaux de l'aide américaine pendant ces 3 années de guerre en Ukraine.
Alors, tout d'abord, l'aide la plus massive est, paradoxalement, celle qui fut la moins visible, Juan. Il s'agit du renseignement, plus exactement la planification du ciblage dans la profondeur du dispositif militaire russe. Cette contribution fut considérable et capitale. Bien sûr, les Américains, vous le savez, n'ont pas été les seuls à fournir du renseignement, mais la quantité fournie et la conception des opérations laissera un vide difficile à combler. Pour vous donner une idée, des dizaines d'officiers d'état-major américains au Pentagone étaient chargés de penser la guerre, d'orienter les manœuvres, et pour cela, ils pouvaient s'appuyer sur tout le panel des capteurs du renseignement américain, renseignement d'origine électromagnétique, satellitaire, les drones. Donc voilà, ils ont mis à contribution tout ce qu'ils possèdent en nombre, au contraire des Européens. Le second appui décisif touche à l'artillerie en général et au feu dans la profondeur, en particulier, je pense à l'artillerie roquette, vous savez, les systèmes HIMARS d'une portée de plus de 100 km et qui ont permis de rééquilibrer en quelque sorte le rapport de force, surtout à briser les offensives russes en offrant aux Ukrainiens la possibilité de détruire les concentrations d'hommes, les concentrations de matériel, les centres de commandement qui étaient disposés loin derrière la ligne de front. L'armée américaine a largement contribué à massifier cette artillerie ukrainienne en livrant des canons tractés, un grand nombre de buts de 155 mm quand ils venaient à manquer. Il est vrai qu'aujourd'hui, les Européens ont repris cette production à leur compte et parviennent à compenser l'aide initiale américaine. Les obus sont là, en quelque sorte, c'est une chose. En revanche, vous savez, les obus, pour qu'ils partent, il faut des charges propulsives, c'est de la poudre. Mmh. Ces charges viennent à manquer et l'Europe est à la traîne. Est-ce que les Américains continueront à fournir, par exemple, cet élément crucial? Ça, on ne le sait pas à cette heure. Même si les Européens, par exemple, l'achetaient, on verra ça. Troisième soutien de poids, la défense solaire, avec le puissant apport de l'emblématique système Patriot, dont les missiles sont parvenus à écarter Rappelez-vous cette menace des munitions russes dites véloces, hein, les missiles Kinjal, les missiles Calibre, la défense solaire, eh bien ça, on le sait, c'est le talon d'Achille européen, avec des systèmes qui pourtant existent. Hein, il y a le Santemamba, par exemple, avec les missiles Aster franco-italiens, mais ils ne sont pas disponibles en nombre suffisant, il va falloir accélérer. Et puis, d'une manière générale, c'est pas tout. On parle de ces éléments, de ces matériels très stratégiques, mais c'est pas tout. L'aide américaine a permis, en fait, de renforcer, de faire monter en gamme toute l'armée ukrainienne en fournissant tous les petits matériels, du soutien aux soldats. Ça va du casque au gilet pare-balles, au soutien logistique, au petit armement. Et ça, c'est considérable. Et voilà, nous...
Est-ce que ça veut dire que les Européens, à l'heure actuelle, ne sont pas en mesure de comprendre penser immédiatement le gel de l'aide américaine.
Difficilement, évidemment. L'industrie de défense européenne est très fragmentée. Elle produit en petite quantité. Les armées européennes sont des petites armées.
D'où le projet annoncé hier par la présidente de la Commission européenne de débloquer 800 milliards d'euros pour la défense de l'Europe.
Oui, si surtout on veut structurer une défense européenne, c'est encore un autre projet. Et là, pour en revenir à l'aide à l'Ukraine, la question ouverte qui se pose, c'est, sachant que nos propres industries ne seront pas suffisantes, est-ce que l'argent européen sera autorisé pour l'achat de matériel américain à destination de l'Ukraine. Ça, on n'a pas la réponse.
Ouais, il faudra avoir le feu vert des Américains.
Absolument.
Effectivement. A-t-on répondu à vos questions, Pascal ?
Oui, merci, Juan. Merci
à Franck Alexandre, qui est avec nous, spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI. Bonne journée à tous les deux. On parlait du Gabon en préambule d'émission. C'est notre débat du jour, la candidature d'Oligui Nguema. Yannick, vous avez justement des questions. Soyez le bienvenu. Bonjour, Yannick.
Bonjour, monsieur Juan. Bonjour à vous.
Nous vous écoutons.
Bon, j'avais précisément deux questions.
Allez-y.
D'accord. En fait, je me posais la question, comment l'opposition gabonaise réagit-elle à la candidature du général Oligui Nguema ?
Ah, bonne question. Vous savez quoi ? On a Yves-Laurent Goma, notre correspondant à Libreville. Il va tenter de vous répondre. Bonjour Yves-Laurent.
Bonjour Juan.
L'opposition a-t-elle réagi depuis lundi soir ?
En tout cas, il y a très peu de réactions des adversaires d'Oligui Nguema. La principale est venue de Jean-Rémi Yama, l'ancien puissant syndicaliste qui a fondé, il y a un mois seulement, le Parti national pour le travail et le progrès. Dans une conférence de presse hier à Libreville, Jean-Rémi Yama a affirmé que le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas écouté la voix de la sagesse. Il lui reproche de ne pas avoir respecté ses engagements pris lors de son investiture le 4 septembre 2023. À cette date, Oligui Nguema avait promis de rendre le pouvoir aux civils après avoir organisé des élections libres, transparentes et crédibles. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, souvent assez prompt dans les réactions, n'a fait aucun commentaire. Il est pourtant considéré comme l'un des redoutables adversaires d'Oligui Nguema. Ouais.
Comment expliquer, Yves-Laurent Goma, ce silence finalement de la classe politique et surtout de l'opposition gabonaise ?
Il semble que les potentiels candidats se préoccupent actuellement à se battre pour avoir un dossier complet de candidature dans 3 jours. Le dernier délai de dépôt de candidature, c'est ce samedi 8 mars. Donc, il n'y a plus assez de temps. Les pièces à fournir sont nombreuses. Il y a, par exemple, une quittance du Trésor public, preuve du versement de la caution de 30 millions de francs CFA, soit 45 000 euros exigés. Ça donne un peu du tournis en ce moment.
Yannick voulait savoir quelle pourrait être la stratégie de l'opposition pour contrer le président de la transition ?
En tout cas, pour le moment, on n'en sait rien, car la liste des candidats n'est pas encore connue. Il se susurre déjà des projets d'alliance. Il y aurait une espèce de primaire entre candidats opposés à Oligui Nguema pour désigner celui qui serait en pole position pour le battre. La classe politique gabonaise est habituée à produire des scénarios capables de faire déjouer tous les pronostics. En 2009, c'était André Mbaobam qui avait été désigné à quelques jours du scrutin, une forte alliance s'est créée autour de Jinping en 2016, alors que le professeur Albert Ondoosa était choisi à la surprise générale comme porte-flambeau de l'opposition face à Ali Bongo en 2023. Cependant, il faut noter que la donne a vraiment changé. Hein. Le principal projet politique de l'opposition depuis la mort d'Omar Bongo se résumait en un slogan « tout sauf les bongos ». Or, cette année, il n'y aura certainement pas un bongo pur sang sur la liste des candidats.
Eh bien, on suivra ça, bien évidemment, et on en parlera dans 20 minutes maintenant avec les auditeurs de RFI. Yannick, a-t-on répondu à vos questions ?
Exactement. Bon, bien sûr, on s'est coupé, mais je suis vraiment ravi des réponses, bien sûr. Merci.
Eh bien, bonne journée. Merci de nous écouter à Libreville, au Gabon, 9h20 ici à Paris, 8h20 en temps universel. On repasse au standard avec d'autres questions à la rédaction. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour, Juan. Bonjour à tous.
Merci de nous écouter en République démocratique du Congo. Vous êtes à Kinshasa.
Voilà. Vos je suis questions. À Kinshasa, alors. Merci beaucoup.
Jean-Baptiste.
De l'Allemagne.
Pardon, on n'a pas. Il y a une petite coupure. Redites.
Ah oui, là vous m'écoutez très bien, je pense.
Maintenant, oui.
Je pense. D'accord. Alors, dans l'ouest de l'Allemagne, une voiture a percuté plusieurs piétons, faisant au moins 2 morts et plusieurs blessés graves. Mmh. Alors, mes deux petites préoccupations étaient les suivantes. Quel est le profil du suspect arrêté et qu'est-ce qui pourrait expliquer la récurrence d'attaques à la voiture Bélier dans le pays ?
Ouais, les faits se sont passés lundi, en milieu de journée. Un automobiliste a foncé à très grande vitesse dans une zone piétonne de la ville de Mannheim, où se tenait un marché de forains à l'occasion des festivités du carnaval. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Jean-Baptiste.
Correspondant de RFI à Berlin, il s'est servi de sa voiture comme d'une arme, a déclaré le ministre régional de l'Intérieur. Le suspect a rapidement été arrêté. Quel est son profil ?
Alors, il s'agit d'un Allemand qui habite dans la région, Alexander S., 40 ans, un homme solitaire, à la carrière professionnelle un peu hachée, un solitaire qui travaillait en dernier lieu comme jardinier, qui aimait beaucoup les chiens. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur ses motivations. Les autorités parlent de troubles psychologiques. La thèse d'un suicide, évidemment, malheureusement tragique, puisqu'il a entraîné la mort de 2 personnes et fait 11 blessés, est aussi étudié par les enquêteurs, puisque l'homme, avant d'être interpellé, a retourné une arme dont il disposait sur lui. Il a donc survécu à ses blessures relativement légères. Voilà ce qu'on sait de ce profil.
Il s'est tiré une balle dans la bouche, hein, avec un pistolet d'alarme, dit-on.
Exactement, oui. Donc une arme qui n'est pas forcément létale, mais qui a évidemment repoussé l'interrogatoire possible par les autorités pour en savoir un peu plus, le cas échéant, sur ses motivations. Alors, on a un petit peu scruté, c'est ce qu'on fait bien sûr de nos jours, son ordinateur, ses activités sur les réseaux sociaux, pour en savoir un petit peu plus. A priori, une piste politique est exclue. L'homme avait un casier judiciaire, mais il avait été condamné pour des peines relativement vénielles, pour avoir conduit ivre une voiture, pour une agression. En 2018, mais cela remonte un peu, il avait été condamné pour avoir publié sur le net une photo avec un symbole politique d'extrême droite. Mais encore une fois, jusqu'à présent, une piste politique, contrairement aux attaques à la voiture Bélier ou au couteau de la dernière semaine, paraît exclu.
Oui, puisque Jean-Baptiste le rappelait à l'instant, et à juste titre, l'Allemagne a déjà été confrontée à plusieurs attaques de ce type. La dernière remontait à la mi-février.
Oui, effectivement, il y a eu différentes attaques ces dernières semaines et ces derniers mois. La plupart d'entre elles, ou toutes celles dont on a en tout cas beaucoup parlé, ont été commises par des migrants. C'était le cas contre le marché de Noël à Magdebourg juste avant les fêtes, mais encore ultérieurement à Aschaffenbourg et à Munich en Bavière, ou bien sur le site du mémorial de l'Holocauste à Berlin juste avant les élections. Il faut aussi rappeler que Mannheim est frappé pour la deuxième fois en moins d'un an, puisque fin mai, un policier qui s'était interposé avait été tué par un coup de couteau par un Afghan qui voulait s'en prendre au stand d'information d'un militant anti-islam. Cette fois-ci, donc, encore une fois, là, il ne s'agit pas, l'auteur de l'attaque n'est pas un migrant, ce qui évidemment a réduit les polémiques qui avaient défrayé la chronique, spécialement durant la campagne électorale, qui avaient attisé évidemment les réactions de l'extrême droite contre une immigration synonyme pour elle d'insécurité et qu'il faut absolument stopper.
Merci Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin, et je souhaite une belle journée à Jean-Baptiste qui nous écoute à Kinshasa. Plusieurs auditeurs nous ont appelés pour nous poser des questions sur la situation politique en Guinée-Bissau. Bonjour Sem.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Vous nous écoutez dans le sud du Tchad, on vous écoute.
Oui, j'ai entendu sur RFI qu'une délégation de la CEDEAO a dû quitter la Guinée-Bissau après des menaces du président Mvalo. Mmh. À cet effet, j'ai deux questions. Que sait-on sur ce qui s'est passé?
Ah.
Et cette situation ne peut-elle pas impacter la relation de la Guinée-Bissau avec la CEDEAO?
Oui, en tout cas, la mission de la CEDEAO dit avoir quitté le pays suite à des menaces d'expulsion proférées par le président Umaro Sissoko Mbalo. Bonjour Vincent Fouché.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, spécialiste de la Guinée-Bissau. Rappelez-nous d'abord le contexte de cette mission de la CEDEAO qui s'est rendue à Bissau.
Alors, on a un calendrier électoral qui est extrêmement incertain, très contesté, hein, entre le président Mbalo et puis les deux grandes coalitions d'opposition. Et donc, la mission de la CEDEAO, est plus ou moins en charge, en fait, du dossier bissau-guinéen depuis le coup d'État de 2012. Hein, il suit pas à pas les processus de transition. Et donc, la mission de la CEDEAO était venue pour essayer de trouver une solution.
Oui, parce qu'il y a effectivement divergence concernant la date de l'élection présidentielle. L'opposition affirme que le mandat du chef de l'État est terminé depuis la semaine dernière, alors que la date de la présidentielle a été fixée au 30 novembre. Que s'est-il passé, Vincent Fouché? Pourquoi le président Mbalo, qui assure être à l'origine du départ précipité de la délégation, pourquoi les a-t-il chassés, pour reprendre ses mots?
Alors, le président Mbalo s'est expliqué. Hein. Il a dit que la délégation avait voulu rencontrer des acteurs qui n'étaient pas prévus au calendrier des rencontres, hein, notamment la société civile et puis des responsables religieux. En vrai, c'est sans doute plus, et c'est un peu ce que le communiqué de la CEDEAO laisse penser, hein. C'est plus le projet de calendrier que la CEDEAO a suggéré, qui sans doute était un peu trop court au goût du président Mbalo qui a déclenché la crise. Oui. En tout cas, voilà, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement Mbalo a dit qu'il allait expulser la délégation si elle ne partait pas, donc elle est partie.
Ouais. Ils n'ont pas respecté la feuille de route, a-t-il dit. Ici, ce n'est pas une république bananière. Et le président Mbalo de faire référence aux lois, à la constitution, à la Cour suprême du pays. On ne se badine pas avec ça, a-t-il ajouté devant les caméras et les micros des médias bissau-guinéens. Vincent Fouché, quel avenir pour les relations entre l'organisation ouest-africaine et le pays?
Alors, ça n'est pas la première fois qu'une délégation de la CEDEAO est mal reçue dans tel ou tel pays. Hein. On avait eu des cas au Sahel assez remarquables. D'autant que cette fois-ci, il s'agit d'une délégation assez modeste, hein, qui ne comprenait ni chef d'État, ni ancien chef d'État. Mais c'est vrai que ce qui est un peu problématique, c'est que la CEDEAO, j'en ai déjà parlé, a été en pointe sur la situation à Bissau depuis 2012. Elle s'est engagée très très fortement sur le dossier. Elle mène le jeu diplomatique. Il y a une petite force de la CEDEAO qui est revenue dans le pays. Et c'est d'ailleurs une relation étroite, une relation compliquée. L'opposition s'est beaucoup plaint que la CEDEAO était trop favorable au président Mbalo, à cause notamment du lien entre Mbalo et le président sénégalais d'alors, hein, le président Macky Sall, qui était une figure très importante, très centrale dans la CEDEAO. Peut-être qu'avec un nouveau président sénégalais à Dakar, la donne est un peu différente. On va voir comment la CEDEAO va réagir. C'est un moment difficile pour la CEDEAO. On a la scission avec le Sahel, les trois pays du Sahel. Est-ce qu'ils vont tenter de défendre les valeurs? Est-ce qu'ils vont au contraire essayer de ménager le chef d'État d'un pays qui est encore membre? Et puis, l'autre question qui se pose pour la CEDEAO, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec la petite force qui est encore présente? Voilà, on va voir.
On va suivre cela. Merci infiniment, Vincent Fouché. On avait d'autres auditeurs qui souhaitaient vous poser des questions, mais voilà, on est pris par le temps. On ne manquera pas de vous recontacter en fonction de votre agenda et on essaiera, évidemment, évidemment de contenter ses auditeurs qui attendent également des explications, notamment concernant la candidature du président Mbalo, puisqu'il a annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession le 30 novembre prochain. Merci, reste avec nous, il sera dans 15 secondes, 8h30 en temps universel. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI et on revient dans 10 minutes pour parler du Gabon et surtout de la candidature de Brice Clotaire-Oligui Nguema.